Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations, par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui la troisième partie de la somme théologique, donc première partie de la seconde partie, deuxième partie de la deuxième partie, maintenant la tertia pars, la troisième partie. Donc cette partie est une partie inachevée, malheureusement, puisque saint Thomas d'Aquin est mort en écrivant cette troisième partie. Il a eu le temps d'écrire les 90 premières questions. Donc ils vont couvrir le Verbe incarné, les sacrements en général, le baptême, la confirmation, la Sainte Eucharistie, et le début du sacrement de pénitence. Et le reste de la somme, donc le reste de la troisième partie de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin sera écrit par le frère Ginal, qui était un des secrétaires. Il avait plusieurs secrétaires, mais c'était le secrétaire principal de saint Thomas d'Aquin, c'était aussi un de ses amis. Et il a repris des textes de première jeunesse de saint Thomas d'Aquin pour terminer la somme, donc pour terminer d'abord le sacrement de pénitence, puis ensuite l'extrême onction, l'ordre, le mariage et le traité sur les fins dernières. Alors, cette tertia pars est extrêmement importante parce que saint Thomas d'Aquin est en fin de vie. Il meurt donc en 1274. Et on voit très bien dans ces textes qu'il est là vraiment au sommet de sa science théologique, de sa connaissance théologique. Cela laisse d'ailleurs un peu rêveur. On peut imaginer ce qui se serait passé si saint Thomas d'Aquin avait vécu 50 ans plus. Qu'est-ce qu'il aurait pu encore écrire quand on voit que des siècles et des siècles après la fin de la somme, donc 8 siècles plus tard, eh bien, on parle encore, on utilise encore la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui a toujours été inégalée et qui n'a jamais été dépassée en sciences théologiques, en valeurs théologiques. On pourrait se demander vraiment ce qui aurait pu être fait par saint Thomas d'Aquin si le bon Dieu avait permis qu'il vive plus longtemps. Mais le bon Dieu sait ce qu'il fait. Il n'a pas voulu que saint Thomas vive trop longtemps. Il a voulu le prendre avec lui au ciel très rapidement. Alors, le traité que nous allons commencer, c'est le traité du Verbe incarné qui contient 59 questions. Donc dans la tertia pars. Alors saint Thomas d'Aquin va commencer son traité par un prologue qui n'est pas dans toutes les éditions de la somme. J'ai eu du mal à le trouver en français. Mais il est très beau, je vous le dis. Voilà ce que dit saint Thomas comme introduction à cette troisième partie de la somme. Comme notre Seigneur, en délivrant son peuple du péché, selon le témoignage de l'ange, nous a montré en lui-même la voie qui peut nous conduire par la résurrection à la béatitude de la vie éternelle, il est nécessaire, pour achever l'entreprise d'une théologie complète, qu'après avoir étudié notre fin dernière, ainsi que les vertus et les vices, nous considérions le Sauveur même du genre humain et les bienfaits dont il nous a comblés. Et donc, saint Thomas va donc maintenant, dans cette troisième partie de la somme, nous parler du Christ, qui est le modèle et la voie pour aller à Dieu. Retourner à Dieu en suivant le modèle qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui veut venir après moi, qui prenne sa croix, qui ne renonce à lui-même et qui me suive. Donc, dans cette troisième partie, la tertia pars, nous avons à examiner en premier lieu le Christ lui-même, qui comme homme est la voie pour aller à Dieu. Ensuite, les sacrements, moyen desquels nous obtenons le salut. Enfin, notre fin qui est la vie éternelle, à laquelle nous parvenons par la résurrection. C'est pour ça que le traité sur les fins dernières, qui a été achevé par le frère Réginald, est la fin de la somme. Touchant le Christ lui-même, donc le mystère de l'incarnation et les actions du Christ incarné se présenteront à nos études. L'incarnation nous offre trois points à considérer. D'abord, sa convenance, le mode de l'union, les effets de cette union. Et voyons d'abord la convenance de ce mystère. Et c'est la question numéro 1 de ce traité sur le Verbe incarné. Convenance du mystère de l'incarnation. Donc, je fais un petit rappel de catéchisme rapide d'abord, parce que là on touche évidemment à la chose la plus importante de l'histoire du christianisme, de l'histoire de l'Église catholique. Tout est centré sur le mystère de l'incarnation. Incarnation, in carnis, donc de racines latines, celui qui prend chair. L'incarnation, c'est le mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la très sainte Trinité, a pris chair dans le sein de la très sainte Vierge Marie, en recevant d'elle son corps. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est venu miraculeusement dans le sein de la très sainte Vierge Marie, cette création, puisque là il y a une création de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, s'est faite sans intervention d'une semence d'un père. Saint Joseph n'est que le père putatif, l'époux de notre Seigneur Jésus-Marie. Il n'est pas intervenu du tout dans la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une arrivée dans le sein de notre Seigneur Jésus-Marie miraculeuse. Ensuite, notre Seigneur Jésus-Marie a porté de façon normale notre Seigneur Jésus-Christ pendant 9 mois. Du 25 mars, jour de l'incarnation, jusqu'au 25 décembre, naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, elle aussi est miraculeuse dans le sens que la très sainte Vierge Marie n'a pas perdu le sceau de sa virginité. Les pères de l'Église ont une image très belle, que j'ai souvent utilisée. Ils disent que l'enfant Jésus est sorti du sein de la très sainte Vierge Marie en passant comme... par ce sein maternel, comme la lumière passe à travers une pièce de verre, sans briser donc le sceau de la très sainte Vierge Marie. Elle est vierge avant, pendant, après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc saint Thomas commence ce traité, donc question 1 de la tertia pars, sur la convenance de l'incarnation. Article 1, convenait-il à Dieu de s'incarner ? Alors, je vais insister assez fortement sur cette question numéro 1 de la tertia pars, qui est certainement une des questions les plus importantes de toute la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Donc, je vais bien la couvrir pour que vous compreniez l'importance de tous ces textes qui n'ont, encore une fois, pas pris une seule ride. Donc saint Thomas d'Aquin commence par une citation de saint Paul aux Romains. « Les perfections invisibles de Dieu se découvrent à la pensée par ses œuvres. » C'est-à-dire par les œuvres, on remonte de l'effet à la cause. Il ne peut pas y avoir d'effet sans cause. Donc si on étudie les effets, en étudiant les effets de façon honnête sur le plan intellectuel, on remonte à la cause. Donc il apparaît, dit saint Thomas, de la plus haute convenance que par les choses visibles soient manifestés les attributs invisibles de Dieu. Donc par ce mystère de l'incarnation, nous sont manifestés à la fois la bonté, la sagesse, la justice et la puissance de Dieu. On pourrait méditer pendant des heures sur ces textes tellement ils sont beaux. Donc par l'incarnation, c'est-à-dire le mystère de l'union dans la deuxième de l'union dans le Saint Seigneur Jésus Marie de la nature divine et de la nature humaine notre Seigneur Jésus, encore une fois c'est le mystère de l'incarnation, donc le mystère par lequel la deuxième personne de la très sainte Trinité notre Seigneur Jésus-Christ a pris chair en prenant un corps et une âme humaine, donc créé de toutes pièces, Donc l'incarnation a lieu dans le temps, attention, donc il y a encore une fois, ça j'insiste lourdement parce que beaucoup de gens ont les idées un peu renversées à l'envers sur ce point-là. Ils n'acceptent pas quand on dit qu'il y a des choses créées en Dieu. Ils disent que forcément c'est de l'hérésie. Et pourtant c'est vrai, en Dieu même il n'y a pas de choses créées, c'est évident puisque Dieu est éternel. Mais dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est en même temps le Fils de la très sainte Vierge Marie. Donc Marie est mère d'un homme, Dieu. Elle est mère d'une personne, d'un enfant, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment Dieu, vraiment homme. Donc la très sainte Vierge Marie est véritablement mère de Dieu. Donc il y a à notre Seigneur Jésus-Christ une double nature, une nature humaine et une nature divine. La nature divine vient directement de la Sainte Trinité, elle n'a pas été créée évidemment, mais la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ est créée, elle a été créée de toutes pièces le 25 mars, au moment précis où la très sainte Vierge Marie a répondu positivement à la demande de l'ange, parce qu'elle a dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit fait selon votre parole, fiat, qu'il soit fait selon la volonté du bon Dieu ». À ce moment-là, Dieu s'est incarné dans le sein de notre Sainte Vierge Marie. Il a pris une chair humaine. C'est un mystère tellement insondable que incompréhensible. C'est le propre d'un mystère de ne pas être compréhensible par nous. On a une. Comment voulez-vous qu'avec un cerveau de la taille d'un pois chiche, tel est notre cerveau humain, nous puissions comprendre l'intelligence divine. Alors, Saint Thomas donc explique, dit ces quatre mots qui sont très importants. L'incarnation nous manifeste la bonté de Dieu, la sagesse de Dieu, la justice de Dieu et la puissance de Dieu. D'abord, dit Saint Thomas, le mystère de l'incarnation nous manifeste sa bonté, car il n'a pas méprisé la faiblesse de notre chair. Dit, notre Seigneur Jésus-Christ a accepté, pour nous manifester sa bonté, il a accepté de devenir un simple homme. Imaginez un éléphant qui accepte de devenir une souris. C'est une comparaison évidemment, mais ça explique un petit peu les choses. Donc Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui accepte, lui qui a créé le ciel et la terre, qui accepte de devenir homme, et non seulement de devenir homme, il aurait pu devenir homme en apparaissant comme un roi plein de gloire et de majesté. Il devient homme en devenant un tout petit fœtus humain, de même pas un millimètre de long, dans le sein de sa très sainte mère. Et ceci va nous aider à comprendre la bonté infinie, la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous, parce qu'il n'a pas méprisé la faiblesse de notre chair. La seule chose qui est importante à comprendre, c'est que Dieu a tenu à ce que cette incarnation se fasse dans une nature humaine, celle de notre Sainte Vierge Marie, mais une nature non contaminé par le péché originel. C'est pour cela que il a choisi sa mère, il a voulu donner à sa mère le privilège invraisemblable de l'Immaculée Conception. La très sainte Vierge Marie est sans la tache du péché originel, elle a été conçue sans la tache du péché originel, et donc lorsque notre Seigneur Jésus-Christ va s'incarner dans le sein de sa mère, il s'incarne dans le sein d'une mère qui est parfaitement pure sur le plan physique et sur le plan moral, d'ailleurs les deux, eh bien, il va avoir donc une nature humaine qui vient de sa mère, qui va être elle aussi parfaitement pure. Donc il y a deux créatures qui sont exemples du péché originel, la très sainte Vierge Marie, d'abord, dans le temps, puis ensuite, plus tard, notre Seigneur Jésus-Christ au moment de l'incarnation. Donc ce mystère d'incarnation manifeste donc la bonté de Dieu, ensuite la justice divine. Elle manifeste sa justice divine car, dit saint Thomas, l'homme ayant été vaincu par le tyran du monde, quel démon, Dieu a voulu que ce tyran soit vaincu à son tour par l'homme lui-même. Et c'est en respectant notre liberté qu'il nous a arrachés à la mort. Il y a tout un traité de théologie dans cette simple phrase. Donc l'homme ayant été vaincu par le tyran du monde, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le démon a roulé Adam et Ève, a trompé nos premiers parents, et donc puisque le démon a roulé les premiers hommes, Dieu a voulu que le démon lui-même soit vaincu à son tour par l'homme lui-même, un homme, un véritable homme, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est véritablement homme mais qui est en même temps Dieu, tout en respectant notre liberté qui nous a arrachés à la mort. Troisième manifestation par le mystère de l'incarnation, c'est la sagesse de Dieu. Donc l'incarnation manifeste la bonté divine, la justice divine, la sagesse divine. Car à la situation la plus difficile, il a su donner la solution la plus adaptée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le péché, il y a quelque chose d'infini. Puisque le péché s'oppose directement à l'infini bonté et miséricorde de Dieu. Donc à chaque fois qu'on commet un péché, on commet un acte qui est infiniment grave, puisqu'on met directement Dieu, créateur du ciel éternel, et être infini, infiniment parfait, tout puissant, un pur esprit, on met dehors un être infiniment grand et infiniment parfait. Donc pour pouvoir rattraper le péché, qui est un acte infiniment grave, il faut utiliser quelque chose qui soit infini. Alors, le seul être infini qui existe, c'est Dieu. Donc dans sa sagesse, Dieu a trouvé comme solution la plus adaptée pour rattraper la gravité du péché, il a trouvé comme solution l'incarnation. Et enfin, quatrième mot, par le mystère de l'incarnation est manifesté la puissance de Dieu. Car rien n'est plus grand que ceci, Dieu qui se fait homme. Humainement parlant, c'est quelque chose de tout petit. Il faut comprendre que ce petit fœtus d'un millimètre, même pas un millimètre de long, qui commence à se développer dans le sein de la Très Sainte Vierge Marie, après le mystère de l'Incarnation, après le 25 mars, eh bien, ce petit fœtus est vraiment Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas simplement le Fils de Dieu. Ça, c'est très important à comprendre. Quand on parle avec les protestants ou avec les modernistes, puisque c'est du protestant et l'autre, on a toujours le problème. Quand on demande à un protestant, est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ils vous répondront tous oui. Nous croyons, tous les protestants croient que Jésus est le Fils de Dieu. Très bien. Et quand vous insistez en disant, est-ce que vous croyez que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Ils vont vous dire, nous croyons qu'il est fils de Dieu. Oui, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous croyez qu'il est Dieu? C'est ça le drame. C'est que les protestants, les modernistes font pareil, distinguent entre le fils de Dieu et Dieu. De même, ils vont dire qu'un enfant est fils de son père, mais ça ne veut pas dire qu'il est le père. Et c'est là où intervient le mystère de l'incarnation. Notre Seigneur Jésus-Christ est fils de Dieu, mais il est véritablement, substantiellement Dieu dans sa nature divine. Donc, puisque notre Seigneur Jésus-Christ est la deuxième personne de la Sainte Trinité, il y a une double nature, il est vraiment homme et vraiment Dieu, il va pouvoir faire deux choses. En tant que Dieu, il peut nous sauver, et en tant qu'homme, il peut mourir sur la croix. Pourquoi Dieu a-t-il accepté de devenir homme? A-t-il dû devenir homme? Il est devenu homme, parce que Dieu avait décidé de toute éternité que pour rattraper le péché, qu'il faudrait le mystère de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, le mystère de la rédemption. Un Dieu ne peut pas mourir, puisque Dieu par définition est éternel. Donc Dieu s'est uni à notre nature humaine pour avoir une nature qui puisse mourir sur la croix. Donc notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait Dieu, s'est fait homme, pardon. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme pour pouvoir mourir sur la croix. Donc on retrouve la double définition, mystère d'incarnation, mystère de l'union de l'humanité et de la divinité dans la même personne. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. Deuxième partie de la définition, pour mourir sur la croix le vendredi saint et nous sauver par sa mort et sa résurrection. Et donc là, c'est le mystère de la rédemption. Donc vous voyez qu'il y a une union très étroite entre le mystère de l'incarnation, le mystère par lequel notre Seigneur Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, et le mystère de la rédemption par lequel notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix le vendredi saint pour nous sauver. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'avait été que Dieu, n'était que Dieu, il ne pourrait pas mourir sur la croix. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'était qu'un simple homme, il pourrait mourir sur la croix, bien sûr, mais il ne pourrait pas nous sauver. Donc il est à la fois Dieu et à la fois homme. Et donc, ce mystère de l'incarnation nous manifeste à la fois la bonté, la sagesse, la justice et la puissance de Dieu. Ça, c'est l'introduction donc de saint Thomas d'Aquin à cette question 1, article 1, convenait-il à Dieu de s'incarner? Ensuite, il va développer la chose. La nature même de Dieu c'est l'essence de sa bonté. Tout ce qui ressortit à la raison de bien, donc convient à Dieu. Donc, ce mystère de l'incarnation va manifester d'abord et avant toute chose la bonté divine. Et comme Dieu est le bien souverain, bien avec un grand B, B majuscule, il appartient au bien de se diffuser. Bonum diffusivus sui. Le bien a une tendance à se diffuser par définition parce qu'il est bien. Donc il appartient à la raison de bien qu'il se communique à autrui. C'est une citation de Saint Denis, l'Aréopagite, un disciple de Saint Paul. Aussi appartient-il à la raison du souverain bien qu'il se communique souverainement à la créature. Donc Dieu veut se communiquer, il veut se communiquer à la créature, et cette souveraine communication se réalise quand Dieu s'unit à la nature créée, de façon à ne former qu'une seule personne de ces trois réalités, le Verbe, l'âme et la chair. C'est une citation de Saint Augustin. Donc, par le mystère de l'incarnation, Dieu se communique à autrui, première chose. Deuxième chose, il se communique de façon souveraine à la créature. Et troisième chose, cette souveraine communication réalise quand Dieu s'unit à la nature créée de façon à ne former qu'une seule personne de ces trois réalités, le Verbe, l'âme et la chair. Donc en notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, il y a une nature humaine parfaite et une nature divine évidemment parfaite. Donc, dans la nature humaine, comme notre Seigneur Jésus-Christ est véritablement homme, l'homme est fait d'un corps et de l'âme, donc il y a un corps humain en notre Seigneur Jésus-Christ, une âme humaine en notre Seigneur Jésus-Christ, et la divinité parfaite. C'est pour cela que lorsque l'on reçoit notre Seigneur Jésus-Christ par la Sainte Communion, on reçoit le corps, l'âme, le sang et la divinité. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, je dis qu'il est homme, qu'il a un corps et une âme, il est évident que s'il a un corps, il a un corps avec du sang, puisque c'est le sang qui amène la vie au corps. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, il est homme avec son corps, son sang et son âme. Notre Seigneur Jésus-Christ étant un corps vivant, un corps humain vivant ne peut exister sans une âme. Donc notre Seigneur Jésus-Christ a un corps créé, un sang, du sang créé, une âme créée et une divinité incréée. Donc ainsi, la convenance de l'incarnation apparaît à l'évidence selon saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, je crois que c'est mon opinion personnelle, je peux me tromper, je peux imposer mes opinions. Dans mon cours, j'évite soigneusement toute opinion personnelle. Je ne veux pas avoir d'opinion personnelle en matière théologique. Je veux penser comme l'Église catholique a toujours pensé. Malgré toutes mes faiblesses personnelles, c'est pour moi extrêmement important. Enseigner ce que l'Église catholique a toujours enseigné, point final. Cependant, à titre personnel, je pense que cet article, l'article 1 de la question 1 de la tertia pars, est peut-être un des plus beaux de la somme. Il n'est pas terminé, donc saint Thomas va ensuite répondre aux objections. Alors, je vais reprendre dans ces objections les choses les plus importantes. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de faire un cours de haute théologie, j'essaye d'adapter la théologie qui est dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin de telle façon que tout le monde puisse la comprendre. Mais je ne cherche pas à faire de la haute théologie pour c'est un cours, par exemple, le cours que je vous donne serait insuffisant à mon avis pour des séminaristes. Il faut des gens bien plus intelligents que moi et plus doués que moi qui puissent faire ce cours à des séminaristes. Mais pour des fidèles, je pense que déjà, si vous comprenez tout ce que j'essaye tant bien que mal de vous expliquer, bien vous aurez déjà une foi très forte. Donc voilà ce que dit saint Thomas dans des réponses aux objections. Il va expliquer que le mystère de l'incarnation ne s'est pas accompli du fait que Dieu ait changé de quelque manière l'état dans lequel il existe de toute éternité, mais du fait qu'il s'est uni à la créature, ou plutôt qu'il se l'est uni de façon nouvelle. Donc Dieu a toujours existé, il ne commence pas à exister par le mystère de l'incarnation, parce qu'il a toujours été, il est Dieu. Par le mystère de l'incarnation, il commence à être d'une façon nouvelle, uni à notre nature humaine. Ensuite, saint Thomas explique une phrase magnifique. Être uni à Dieu dans la personne ne convenait pas à la chair de l'homme selon la condition de sa nature. car cela était au-dessus de sa dignité. Cependant, il convenait à Dieu, selon la transcendance infinie de sa bonté, de s'unir la chair pour le salut de l'homme. Donc pourquoi convenait-il à Dieu, selon la transcendance infinie de sa bonté, de s'unir la chair humaine pour le salut de l'homme? Réponse: pour manifester sa bonté, sa justice, sa sagesse et sa puissance infinie. On a déjà expliqué. Pourquoi? Parce que rien n'est plus grand que ceci, Dieu qui se fait homme. C'est pour cela que dans la Sainte Messe, lorsque le prêtre, dans le credo, dit « et verbum caro factum est » et le verbe s'est fait chair, Dieu s'est fait homme, on fait la génuflexion pour bien marquer justement l'importance de ce mystère de l'incarnation. Donc, ce que dit ici saint Thomas, c'est que le mystère de l'incarnation manifeste de façon extraordinaire la miséricorde du bon Dieu pour nous. Donc, toutes les conditions qui rendent la créature différente du Créateur ont été instituées par la sagesse de Dieu et ordonnées à sa bonté. En effet, c'est par bonté que Dieu, immobile et incorporel, produit des créatures changeantes et corporelles. De même, le mal de peine a été introduit par la justice de Dieu en vue de la gloire de Dieu. Tandis que le mal de faute est commis par éloignement du plan de la sagesse divine et de l'ordre de la bonté divine. Et c'est pourquoi il a pu être convenable que Dieu assume une nature créée, changeante, corporelle, soumise au châtiment, mais il n'aurait pas été convenable qu'il assume le mal du péché. Donc Dieu, si vous voulez, s'est fait homme, il est devenu en tout identique à l'homme, il a pris toute la nature humaine, sauf le péché. Donc notre Seigneur Jésus-Christ étant vraiment homme, a dû, comme homme, manger, dormir. Il a eu besoin de manger. Il a été fatigué dans sa nature humaine. Il a souffert la passion de façon épouvantable parce que, justement, il était pleinement homme. Donc, Dieu n'est pas grand par la masse, mais par la puissance. Si la parole de l'homme, en se propageant, est entendue tout entière et en même temps par beaucoup et par chacun, il n'est pas incroyable que le Verbe de Dieu, qui est éternel, soit tout entier partout à la fois. Donc l'incarnation de Dieu n'a rien d'inadmissible. Ceci est pour répondre à une objection qu'on entend assez souvent. Et je vous dis l'objection telle qu'elle est exprimée par saint Thomas, c'est la quatrième objection. Il est inconcevable que celui qui dépasse toute grandeur se renferme dans ce qui est le plus petit, et que l'être chargé de grandes choses s'abaisse à des petitesses. Mais Dieu, qui a la charge de tout l'univers, ne peut être enfermé dans cet univers. Il semble donc impossible que celui qui, pour qui l'univers est comme rien, aille se cacher dans le corps vagissant d'un enfant, que ce souverain s'absente si longtemps de son palais et que tout le gouvernement du monde se transporte dans ce petit corps. Ça, c'est un hérétique. Un hérétique s'appelait Volusien qui disait cela. Et saint Thomas répond de façon admirable en disant que notre Seigneur Jésus-Christ, justement, est grand par sa puissance. C'est qu'il est Dieu dans le sein de notre Sainte Vierge Marie, mais tout en étant Dieu dans le sein de notre Sainte Vierge Marie par le mystère de l'incarnation, Dieu est aussi au ciel. De la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ est dans le tabernacle, présent sous les espèces du pain consacré, des hosties consacrées, mais il est en même temps au ciel. Il est partout parce qu'il est Dieu. Donc, j'ai passé un peu de temps sur ce premier article, mais je pense encore une fois que ce n'est plus beau de la somme, et donc il faut insister là-dessus. Article 2 de la question 1, donc on est toujours dans la question qui va traiter de la convenance de l'incarnation, et saint Thomas d'Aquin va maintenant donc se poser la question de savoir si l'incarnation était nécessaire à la restauration du genre humain. En gros, il va commencer à se poser la question de savoir est-ce que Dieu aurait pu nous sauver d'une autre façon. Donc il faut bien étudier ses réponses. Donc saint Thomas fait d'abord remarquer que Dieu est plus enclin à faire miséricorde qu'à punir. Une très belle phrase, bien réconfortante pour chacun d'entre nous. Dieu est plus enclin à faire miséricorde qu'à punir. Dieu, par nature divine, veut d'abord appliquer sa miséricorde avant d'appliquer sa justice. Dieu, de nature, de manière antécédente, souhaite n'utiliser que sa miséricorde. Mais de manière conséquente, il est bien malheureusement obligé d'utiliser sa justice pour ceux qui ne veulent pas de sa miséricorde, justement. Alors voyons un petit peu ce que dit saint Thomas. Dieu, par sa vertu toute puissante, aurait pu restaurer notre nature de bien d'autres manières. Donc il aurait pu nous sauver d'une autre façon. Bon.
Dieu aurait pu en soi nous sauver en nous offrant une marguerite tous les matins. Ça aurait peut-être été plus facile pour nous. Mais s'il a choisi l'incarnation, c'est parce que c'était la meilleure des choses pour nous. Il était nécessaire que Dieu s'incarne pour restaurer notre nature. Donc montrons que Dieu, à la puissance de qui tout est également soumis, avait la possibilité d'employer un autre moyen, mais qu'il n'y en a eu aucun plus adapté à notre misère et à notre guérison. Donc notre Seigneur Jésus-Christ s'est incarné parce que ce mystère de l'incarnation correspondait le mieux à notre misère et à notre guérison. En devenant tout petit enfant, notre Seigneur Jésus-Christ donc montrait davantage à la fois sa puissance et à la fois sa miséricorde pour le pécheur repentant. Donc saint Thomas va expliquer cela en 5 points. Premier point, notre foi devient plus assurée du fait que l'on croit Dieu qui nous parle en personne. Donc on peut envisager donc au point de vue de notre progrès dans le bien. Donc il va expliquer ça avec 5 points importants. Je vais les expliquer les uns après les autres. Premier point, donc notre foi devient plus assurée du fait que l'on croit Dieu qui nous parle en personne. Pour que l'homme marche avec plus de confiance vers la vérité en personne, le Fils de Dieu, en assumant l'humanité, a constitué et fondé la foi catholique. Donc par sa présence physique parmi nous, Dieu va aider notre foi. Donc les apôtres ne voyaient pas la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, sauf en toute petite partie, pendant par exemple la transfiguration au sommet du Tabor, et simplement pour Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean. Mais les apôtres voyaient l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par les miracles que notre Seigneur Jésus-Christ accomplissait, par l'accomplissement de toutes les prophéties dans cet testament, notre Seigneur prouvait que sa humanité était aussi unie à une nature divine, qu'il n'était pas simplement homme, mais qu'il était Dieu. Donc, si vous voulez, la première chose, c'est que l'incarnation était donc nécessaire pour augmenter en nous la foi. Ensuite, deuxièmement, pour augmenter l'espérance. L'espérance, c'est par le mystère d'incarnation soulevé au maximum. Rien n'était aussi nécessaire pour relever notre espérance que de nous montrer combien de Dieu nous aimait. Quel signe plus évident pouvons-nous en avoir que l'union des fils de Dieu à notre nature? Donc il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir dans le mystère d'incarnation la manifestation, la miséricorde infinie de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pécheur repentant. Pour sauver les pécheurs que nous sommes tous, eh bien Dieu a voulu s'incarner. Il a voulu en quelque sorte quitter le ciel, quitter la grandeur du palais éternel pour venir tout petit homme dans un tout petit palais de rien du tout, le sein de notre Seigneur Jésus-Marie, et cacher sa divinité derrière notre humanité. Avec notre humanité. On voit l'humanité, et derrière cette humanité, il y a la divinité. Rappelez-vous les rois mages qui offrent à notre Seigneur Jésus-Christ l'or, l'encens et la myrrhe. L'or parce qu'ils voient un homme et reconnaissent un dieu, l'or parce qu'ils reconnaissent un roi, l'encens parce qu'ils reconnaissent un dieu, et la myrrhe parce qu'ils reconnaissent un homme qui va mourir, qui va souffrir. Donc, l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ est nécessaire pour augmenter en nous, de façon extraordinaire, pas simplement la foi, mais aussi l'espérance. Et puis, évidemment, la charité. Donc la foi devient plus assurée par l'incarnation, l'espérance est soulevée au maximum par l'incarnation, notre charité est réveillée au maximum par ce mystère de l'incarnation. Quel plus grand motif, dit saint Augustin, y a-t-il de la venue du Seigneur que de nous montrer son amour pour nous? Et donc, déjà, ces trois premiers points sont très importants. L'incarnation est nécessaire pour nous, pour augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité. Mais ça ne suffit pas. Saint Thomas va rajouter d'autres points. Quatrième point, dit-il. Donc, après avoir expliqué les premiers points, la foi, l'espérance et la charité, il nous dit, si nous avons tardé à l'aimer, maintenant au moins ne tardons pas à lui rendre amour pour amour, parce que nous voyons, par son incarnation, nous voyons combien la foi, l'espérance et la charité doivent être augmentées en nous. Quatrièmement, l'incarnation nous donne aussi un modèle de vie. Par l'exemple que Jésus a présenté. Rappelez-vous le thème général de la tertia pars, le Christ qui est la voie pour aller à Dieu. Il est la voie parce qu'il est le modèle. Je suis la voie, la vérité et la vie. Donc c'est donc pour donner à l'homme un modèle visible pour l'homme, par l'homme, que l'homme pouvait suivre. Je répète, c'est donc pour donner à l'homme un modèle visible par l'homme et que l'homme pouvait suivre que Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. Ce que disait saint Augustin. Évidemment, il faut comprendre la phrase de, pas comprendre la phrase de travers, mais c'est parfaitement exact. Dieu se fait tout petit pour que l'homme puisse devenir grand au ciel. Dieu se fait homme pour que l'homme puisse venir d'une certaine façon être divinisé, puisse d'une certaine façon être divinisé au ciel. Donc l'incarnation nous donne un modèle de vie par l'exemple que Jésus a présenté. Enfin, cinquième point, donc après la foi, l'espérance, la charité, le fait que l'incarnation nous donne un modèle de vie, cinquième point, l'incarnation est nécessaire à la pleine participation de la divinité qui est la béatitude véritable de l'homme et la fin de la vie humaine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Je vous ai déjà cité cette phrase qui est une phrase de saint Augustin qui est très très belle. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Encore une fois, il faut comprendre avec intelligence cette phrase. Donc, saint Thomas pourrait s'arrêter là, mais il va trouver d'autres motifs. Il va expliquer ensuite que l'incarnation est nécessaire, est utile pour nous éloigner du mal. Donc, l'incarnation est nécessaire pour augmenter notre foi, augmenter l'espérance, augmenter la charité, nous donner un modèle de vie, nous faire comprendre, nous faire participer de façon plus plénière à la divinité. Mais l'incarnation est aussi utile pour nous éloigner du mal. D'abord, donc il y a encore une fois, il y a cinq points. C'est un article assez long. Voilà ce que nous dit saint Thomas. L'incarnation est utile pour nous éloigner du mal. Premièrement, par ce mystère, l'homme apprend à n'avoir ni préférence ni respect pour le démon qui est l'auteur du péché. Saint Augustin dit, citation de saint Augustin, si la nature humaine a été unie à Dieu au point de devenir une autre personne, que ces esprits mauvais et orgueilleux n'osent plus se préférer à l'homme sous prétexte qu'ils n'ont pas de chair. Donc l'homme apprend à mépriser le démon parce que Dieu, par son incarnation, écrase la tête du démon. Deuxièmement, par ce mystère de l'incarnation, nous découvrons toute la dignité de la nature humaine et qu'il ne faut pas la souiller par le péché. C'est en méditant l'incarnation que nous verrons la grandeur, justement, la beauté extraordinaire de la nature divine à laquelle Dieu nous appelle d'une certaine façon. N'oublions pas qu'il y a quelque chose de divin en nous parce que nous sommes en état de grâce. Il y a une étincelle divine en nous si nous avons l'état de grâce en nous. Pourquoi ? Parce que l'état de grâce, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Et là, il va citer ce magnifique texte de saint Léon qu'on trouve dans les matines de Noël. Chrétien, reconnais ta dignité, et après avoir été uni à la nature divine, ne va pas par une conduite honteuse retourner à ton ancienne bassesse. Ne retournons pas à notre vomi du péché. Notre Seigneur Jésus-Christ, par le mystère de l'incarnation, ce que veut dire saint Thomas, c'est ça, par le mystère de l'incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ nous apprend à comprendre la gravité du péché qui a nécessité un tel mystère, et en même temps, la grandeur de Dieu qui efface le péché par son incarnation. Et puisque notre péché peut être effacé par l'incarnation, il importe par tous les moyens que nous évitions d'y retomber, justement, par notre orgueil. Donc l'incarnation est également utile pour détruire la présomption de l'homme. La grâce de Dieu est mise en valeur pour nous sans aucun mérite de notre part chez le Christ homme. Donc, le mystère de l'incarnation nous aide à comprendre que c'est Dieu qui fait tout le travail, c'est pas nous. Nous, on s'unit au travail de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est lui qui devient pénitent pour nous parce que nous n'avons pas voulu devenir pénitent. C'est lui qui fait pénitence pour nous parce que nous n'avons pas voulu faire pénitence. Quatrièmement, l'orgueil de l'homme, qui est le plus grand obstacle à l'union avec Dieu, peut être réfuté et guéri par cette grande humilité de Dieu. Donc, le mystère de l'Annonciation, de l'incarnation, c'est d'abord le mystère de l'humilité de notre Seigneur Jésus-Christ qui daigne se faire homme. Et donc, cette humilité nous est manifestée par Dieu pour vaincre l'orgueil d'Adam et Ève et notre orgueil à nous, puisque nous avons malheureusement récupéré l'orgueil d'Adam et Ève. Cinquièmement, l'incarnation est utile pour délivrer l'homme de la servitude du péché. Voilà ce que dit saint Thomas. Il cite saint Augustin. Cela devait se faire de telle sorte que le diable fût vaincu par la justice de l'homme, Jésus-Christ. Et cela s'est fait parce que le Christ a satisfait pour nous. Un simple homme ne pouvait pas satisfaire pour tout le genre humain. Et Dieu ne devait pas satisfaire. Il fallait donc que Jésus-Christ fût à la fois Dieu et homme. Dieu pour effacer le péché. L'homme, homme pour mourir sur la croix. Dieu se fait homme pour souffrir et mourir. Et il cite également Saint Léon le Grand. La puissance assume la faiblesse et la majesté la bassesse. Ainsi, ce qui convenait à notre guérison, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, pouvait mourir d'une part et ressusciter de l'autre. Mourir d'une part parce qu'il est homme, ressusciter d'autre part parce qu'il est Dieu. S'il n'avait pas été vrai Dieu, il n'aurait pas apporté le remède. S'il n'avait pas été vrai homme, il n'aurait pas offert un modèle. Quelle beauté dans ces phrases des pères. Je répète cette phrase de Saint Léon. La puissance assume la faiblesse et la majesté la bassesse. Ainsi, ce qui convenait à notre guérison, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, pouvait mourir d'une part et ressusciter de l'autre. S'il n'avait pas été vrai Dieu, il n'aurait pas apporté le remède. S'il n'avait pas été vrai homme, il n'aurait pas apporté, offert un modèle. Voyez la grandeur du mystère de l'incarnation. Et j'espère que, c'est un peu mon grand désir, c'est que ces résumés que je vous donne de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin vous poussent, tous ceux qui ont le temps, les moyens intellectuels de le faire, et moyens de temps aussi, parce que ça prend beaucoup de temps, à les dire encore mieux au texte lui-même. Procurez-vous la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, vous pouvez la télécharger sur internet, vous pouvez la télécharger, aller sur le site liberius.net, vous pouvez la voir sur tous ces sites-là, la télécharger, et n'hésitez pas, j'espère que ça peut être fait par plusieurs personnes, que d'aller directement au texte même, prenez la tertia pars et vous lisez tranquillement le texte de saint Thomas, toute la première question de saint Thomas. Alors attention, n'oubliez pas que lorsque vous lisez directement le texte de saint Thomas, saint Thomas commence après avoir donné le titre de la question, il commence d'abord par les objections. Hein. Donc les trois objections, généralement il y en a trois, les trois objections, les arguments, on appelle les objections, qui sont juste sous le titre de chaque article, les trois objections sont un résumé des erreurs contre le sujet que saint Thomas va traiter. Ensuite, saint Thomas va expliquer le corps de l'article, le résumé de l'article, puis, je veux dire, le sept contrats, c'est-à-dire il va donner la thèse catholique, et ensuite va expliquer dans le corps de l'article la thèse en question. Et ensuite va revenir sur chaque objection pour la détruire. Alors voyons justement les réponses aux objections de cet article 2. La satisfaction, dit saint Thomas, offerte par un simple homme ne pouvait pas être suffisante parce que toute la nature humaine était désorganisée par le péché. Et que le bien d'une personne ou même de plusieurs ne pouvait compenser d'une façon équivalente le désastre de toute une nature. Donc la gravité, le péché est quelque chose de tellement grave, si vous voulez, que notre Seigneur Jésus-Christ est obligé de faire quelque chose, je dirais, d'extraordinaire. Ce quelque chose d'extraordinaire que va faire notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien c'est le mystère de l'incarnation. Donc le mystère de l'incarnation devrait nous aider à comprendre la gravité du péché. C'est en méditant sur l'incarnation qu'on comprend la gravité du péché. En refusant l'incarnation, on refuse de comprendre la gravité du péché. N'oublions pas aussi, ça j'ai déjà expliqué, je reviens deux secondes, c'est que l'incarnation mène à la rédemption. Et donc, le but de l'incarnation, c'est la rédemption. Et le but de la rédemption, c'est quoi? Le but de la rédemption, c'est le salut des âmes. Donc notre Seigneur Jésus-Christ meurt sur la croix pour sauver les âmes. Notre Seigneur Jésus-Christ accepte de s'enfermer dans le sein très peu de notre Sainte Vierge Marie le 25 mars pour sauver les âmes. Donc le péché commis, dit saint Thomas, contre Dieu reçoit une certaine infinité en raison de l'infinie majesté divine, car l'offense est d'autant plus grave que l'offensé est de plus haut rang. Ainsi fallait-il, par une satisfaction adéquate, que l'acte de celui-ci ait une efficacité infinie comme venant de l'homme-Dieu. C'est Dieu étant homme, notre Seigneur Jésus-Christ étant homme et Dieu, cette union entre la divinité et l'humanité va donner une valeur infinie à tous les actes de notre Seigneur Jésus-Christ, à commencer par le mystère de sa passion. Donc on voit bien, si vous voulez, que l'offense est plus grave si l'offensé est plus haut rang. Si un soldat prend un coup de colère et envoie son poing dans la figure d'un compagnon de même niveau que lui, un soldat de deuxième classe, ça va pas très loin. Par contre, s'il envoie son coup de poing dans le nez du colonel, ça fait nettement plus mal. Et s'il envoie son coup de poing dans le nez du général de corps d'armée, et finit en cour martiale. Hein? Bon, parce que justement, l'offensé est le plus haut rang. Hein? On peut parler aussi, dit saint Thomas, d'une satisfaction qui soit suffisante, mais imparfaitement, parce qu'elle est acceptée malgré sa faiblesse par celui qui veut bien s'en contenter. En ce sens, la satisfaction offerte par un simple homme est suffisante. Et parce que l'imparfait suppose toujours une réalité parfaite qui le fonde, il s'ensuit que la satisfaction de tout homme ordinaire tient son efficacité à la satisfaction du Christ. Donc Dieu va nous demander de participer à cette satisfaction divine. C'est ce que nous faisons par l'esprit de pénitence. Alors, je vais avoir le temps de commencer le troisième article. C'est de faire le troisième article de cette question numéro 1 de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, parce qu'elle est en union avec les premières. Il n'y a pas que ces trois premiers articles. Chaque article de la question 1 est capital. Nous voyons le troisième article de cette question numéro 1, la tertia pars. Si l'homme n'avait pas péché, Dieu se serait-il incarné? On va voir, en fait, que là, il y a plusieurs écoles. Donc, saint Thomas explique justement les choses et va donner les distinctions qui s'imposent. Donc, en introduction, il va expliquer que c'est seulement dans l'œuvre de l'incarnation que se manifeste principalement l'effet infini de la puissance divine, puisqu'elle unit deux êtres infiniment éloignés l'un de l'autre en tant qu'elle réalise l'hominisation de Dieu et d'une certaine façon la divinisation de l'homme. Alors, saint Thomas d'Aquin, lui, prend la position que si l'homme n'avait pas péché, le Fils de l'homme ne serait pas venu. Pourquoi ? Parce que l'homme, je veux dire, l'incarnation, est une conséquence du péché. Donc si l'homme n'avait pas péché, eh bien, l'incarnation n'aurait pas eu lieu. Donc si l'homme n'avait pas péché, le Fils de l'homme ne serait pas venu. Bon. Cette thèse n'est pas de foi, dans le sens que l'Église laisse libre sur les raisons d'incarnation, et les franciscains, entre autres, pensent que même si l'homme n'avait pas péché, le Fils de l'homme serait quand même venu, parce que l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la plus belle chose qui soit dans toute la création de Dieu. Donc la création de corps et l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il y a de plus beau. Bon, vous pouvez suivre un petit peu ce que vous voulez. Personnellement, j'essaie d'être Tommy jusqu'au bout de la racine des cheveux. Donc je suis la thèse de saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin explique, en citant la glose du début de l'Église, « Il n'y a pas d'autre motif à la venue du Christ Seigneur que le salut des pécheurs. Supprimer la maladie, supprimer les blessures, il n'y a pas de motif pour recourir au remède. » Donc, ce qu'il dit saint Thomas, c'est si il n'y avait pas de maladie, il n'y aurait pas besoin de docteur. S'il n'y avait pas de maladie, il n'y aurait pas besoin de remède, de médicaments. Mais puisque, dit-il, dans la Sainte Écriture, le motif de l'incarnation est toujours attribué au péché du premier homme, on dit avec plus de justesse que l'œuvre de l'incarnation est ordonnée à remédier au péché, à tel point que si les péchés n'avaient pas eu lieu, il n'y aurait pas eu l'incarnation. Cependant, saint Thomas ouvre là la porte à une autre opinion, celle de saint François. Cependant, la puissance de Dieu ne se limite pas à cela, car il aurait pu s'incarner même en l'absence du péché. D'accord. Alors, donc saint Thomas dit donc expressément, si le péché n'avait pas eu lieu, il n'y aurait pas eu de nécessité de l'incarnation. Donc l'incarnation étant provoquée par le péché, si vous supprimez la cause, vous supprimez l'effet. L'incarnation étant l'effet du péché. Si vous supprimez le péché, vous supprimez la cause de, si vous supprimez le péché, vous allez supprimer la, l'effet, la conséquence du péché, à savoir l'incarnation. Si l'homme, saint Thomas va expliquer encore un peu plus, un peu mieux, même dans les réponses aux objections, ce qu'il dit, si l'homme n'avait pas péché, il aurait été inondé par la lumière de la sagesse divine, et Dieu lui aurait donné la perfection de la justice pour tout ce qu'il avait besoin de connaître et de faire. Mais parce que l'homme, en abandonnant Dieu, s'était effondré au niveau des réalités corporelles, il convenait que Dieu, en s'incarnant, lui apporte le remède du salut par des moyens corporels. C'est pourquoi, sur la parole de saint Jean, le Verbe s'est fait chair, saint Augustin affirme, « La chair t'avait aveuglé, la chair te guérit, car le Christ est venu pour éteindre par la chair les passions de la chair. L'homme a péché dans sa nature humaine, donc Dieu vient prendre notre nature humaine pour rattraper le péché de cette nature humaine. » Donc rien n'empêche, c'est une conclusion de l'article 3 de saint Thomas d'Aquin, de la question 1, la tertia pars, rien n'empêche que la nature humaine ait été élevée à un niveau supérieur après le péché. Car Dieu permet le mal pour en tirer un plus grand bien. Et en conclusion, il cite « Heureuse faute qui nous a valu d'avoir un tel rédempteur ». C'est une phrase qui vient de l'Exultète, dans la bénédiction du cierge pascal, pendant le début de la veillée pascale, était réformé par le pape Pie XII. Donc il y a ce chant magnifique, assez long, qui s'appelle le chant de l'Exultet, parce qu'il commence par ces mots Exultet. Et il est dit entre autres, heureuse faute qui nous a valu d'avoir un tel rédempteur. Donc l'incarnation est provoquée par le péché. Alors, vous voyez jusqu'où va l'Église, heureuse faute. Ça ne veut pas dire que le péché est quelque chose de bon, mais le péché a eu comme bonne conséquence l'incarnation. Parce que Dieu est capable de tirer un plus grand bien du mal. Rien n'empêche que la nature humaine est élevée à un niveau supérieur après le péché, car Dieu permet le mal pour en tirer un plus grand bien. Et là, c'est vraiment, on touche le mystère extraordinaire de l'incarnation avec toutes ses conséquences. Alors voyons encore un petit peu de temps. J'essaie quand même de faire, des cours d'une heure en théologie parce que l'expérience m'a montré qu'au bout d'une heure, les gens décrochent un peu, commencent à dormir. Alors même si je ne vous vois pas dormir parce que vous êtes cachés derrière les murs de votre maison, je ne vous vois pas, je ne peux pas vous surveiller. Alors je suppose qu'au bout d'une heure, vous devez dormir. Alors j'arrête les cours au bout d'une heure. Alors, article 4 de la question numéro 1 de la tertia pars. Dieu s'est-il incarné principalement pour enlever le péché originel plutôt que le péché actuel? À voir ce que va dire saint Thomas. Il est certain que le Christ est venu en ce monde pour effacer non seulement le péché qui s'est transmis par origine à la postérité, c'est le péché originel, mais encore tous les péchés qui sont ajoutés par la suite. Donc c'est le péché en général, provoqué par le péché originel, qui ont provoqué à leur tour le mystère de l'incarnation. Donc, le Christ a offert une satisfaction suffisante pour tous les péchés, le péché originel d'abord, puis les péchés actuels. Les péchés actuels, c'est les péchés personnels. Alors, si le Christ est venu principalement pour détruire le péché, c'est dans la mesure où ce péché est le plus important. Alors, il va faire les distinctions qui s'imposent. Quelque chose est plus important de deux façons, dit-il. Ça peut être en intensité. Comme on appelle plus blanche, plus grande, la blancheur la plus intense. De ce point de vue, le péché actuel est plus grand que le péché originel parce que la raison de volontaire s'y réalise davantage, quand nous l'avons établi dans la première partie, deuxième partie, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché originel, pour nous, n'est qu'un péché de nature. Ce n'est pas un péché actuel, ce n'est pas un péché personnel. Par contre, tous les péchés mortels que nous commettons après notre baptême, malheureusement, eux sont les péchés volontaires. D'un autre point de vue, dit saint Thomas, quelque chose est plus grand en extension, comme on parle d'une blancheur plus grande parce qu'elle est plus étendue. Et de cette façon, le péché originel qui atteint le genre humain tout entier est plus grand que le péché actuel propre à une personne individuelle. Et à cet écart, le Christ est venu principalement pour enlever le péché originel en tant que le bien de la nation est plus divin et plus éminent que le bien d'un seul. Notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, étant Dieu, voit tout. Toutes les conséquences du péché originel, contrairement à nous. Il n'est pas exclu que le Christ soit venu principalement pour abolir le péché de toute l'humanité, plus que celui de l'individu, mais ce péché de nature, péché originel, a été guéri aussi parfaitement en chacun que s'il avait été guéri chez un seul. Ainsi aussi, à cause de l'union réalisée par la charité, tout ce qui a été prodigué à tous, chacun peut le prendre en compte pour soi-même. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est donc pas simplement mort pour le péché provoqué par Adam et Ève, il est mort aussi pour tous nos propres péchés. Voyons la question numéro 5 maintenant. L'article numéro 5 de la question 1, la tertia part, aurait-il convenu que Dieu s'incarne dès le commencement du monde? Alors, voyons un petit peu ce que dit saint Thomas. Il cite saint Paul. Quand vint la plénitude des temps, Dieu envoya son fils né d'une femme. Dieu a tout fixé dans sa sagesse. C'est donc au temps le plus opportun qu'il s'est incarné. Et ainsi, ne convenait-il pas qu'il se soit incarné au commencement du monde? Notre Seigneur a voulu attendre. Il aurait pu s'incarner au début, ça aurait évité peut-être bien les problèmes, mais il a voulu dans sa sagesse attendre. Puisque, voilà, c'est les raisons qu'il va donner dans le corps de l'article, puisque l'œuvre de l'incarnation est ordonnée de façon primordiale à la restauration de la nature humaine par l'abolition du péché, il est évident que l'incarnation de Dieu, dès le commencement du genre humain, avant le péché, n'aurait pas eu de motif, car on ne donne de remède qu'à celui qui est déjà malade. Selon cette parole du Seigneur, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin des médecins, mais les malades. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu tout à fait au début de la création de l'homme. Parce qu'il n'y aurait pas eu besoin d'incarnation, puisque Adam et Ève n'avaient pas encore péché. L'incarnation provoquée par le péché, donc il a attendu. Il ne convenait pas, dit saint Thomas non plus, que Dieu s'incarne, donc avant le péché. Mais aussi, dit-il, il ne convenait pas non plus que Dieu s'incarne aussitôt après le péché. À cause, premièrement, dit-il, de la condition du péché de l'homme, fruit de l'orgueil. Il fallait que l'homme soit libéré après s'être humilié pour reconnaître son besoin d'un libérateur. C'est par une haute prudence qu'après la chute de l'homme, le Fils de Dieu n'a pas été envoyé aussitôt. En effet, Dieu a d'abord laissé l'homme à son libre arbitre afin de lui faire connaître ainsi les forces de sa nature. Puis à cause de son incapacité, l'homme reçut de la loi. Ensuite, sa maladie s'aggrava, non par la faute de la loi, mais par celle de sa nature viciée. Ainsi, connaissant sa faiblesse, il appellerait le médecin et rechercherait le secours de la grâce. Donc le grand obstacle au travail de la grâce dans nos âmes, c'est toujours l'orgueil. Donc l'homme veut permettre que l'homme soit humilié par son péché. Une fois qu'on est bien humilié par péché, on comprend la nécessité de l'incarnation. Qu'on ne peut pas s'en tirer tout seul. Quand on est en bonne santé, on n'a pas besoin du médecin. On prétend qu'on n'a pas besoin du médecin. Par contre, lorsqu'on est malade, on a besoin plus du médecin. Et quand on est mourant, on a encore plus besoin de lui. Deuxièmement, dit saint Thomas, la progression dans le bien exige que l'on aille de l'imparfait au parfait. Troisièmement, ce délai convenait à la dignité du Verbe incarné. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est incarné dans la plénitude des temps. Plus le juge à venir était éminent, plus devait être longue la suite des héros qu'il annonçait. Ce sont toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui vont préparer les âmes à la venue de notre Seigneur. Et quatrièmement, il ne fallait pas que la ferveur de la foi s'attédisse au cours d'une trop longue durée. Car il est écrit, la charité de beaucoup se refroidira. Quand le Fils de l'homme viendra, croyez-vous qu'il attendra, trouvera encore la foi sur la terre. Donc notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas voulu s'incarner tout de suite au début de la création d'Adam et Ève, mais il n'a pas voulu non plus attendre la fin du monde pour s'incarner. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas que la charité de beaucoup se refroidirait. Dieu n'a pas proposé dès le début le remède de l'incarnation pour éviter que l'homme ne le méprise par orgueil s'il n'avait pas commencé par prendre conscience de ça. De sa faiblesse. Dieu prévoit en effet quels sont ceux qui croiraient à ces miracles s'ils en étaient témoins. Il vient en aide aux uns parce qu'il le veut. Il ne vient pas en aide aux autres parce que dans sa prédestination cachée mais juste, il en a jugé autrement. Croyons donc sans hésiter à sa miséricorde envers celui qu'il sauve et à sa justice envers celui qu'il punit. Quelle phrase magnifique. Il ne faut pas poser trop de questions, mon Dieu. Il faut savoir dire, mon Dieu, que votre volonté soit faite, même si je ne la comprends pas, même si je ne la connais pas, même si je ne la connais pas parfaitement, et même si je ne suis pas d'accord. Parce que vous êtes Dieu, et étant Dieu, vous ne pouvez ni nous tromper, ni vous tromper. Alors, je vais terminer la question numéro 1 avec l'article 6 pour avoir au moins terminé la première question de la tertia pars. Donc, la question 6, pardon, l'article 6 de la question 1 de la tertia pars, l'incarnation aurait dû-elle être tardée jusqu'à la fin du monde? Donc, c'est la continuation de l'article 5. Voilà ce que dit saint Thomas. Le mystère de l'incarnation qui devait révéler le Christ au monde ne devait donc pas être tardé jusqu'à la fin du monde. Comme il ne convenait pas que l'incarnation se produise dès le commencement du monde, de même ne convenait-il pas qu'elle soit retardée jusqu'à la fin du monde? Pourquoi? D'abord, parce que dans l'incarnation, la nature humaine est portée au degré suprême d'excellence. C'est pourquoi il ne convenait pas que l'incarnation se produise dès le commencement du genre humain. Dieu attend pour faire comprendre l'importance de l'incarnation. D'autre part, le Verbe incarné est cause efficiente de la perfection humaine, puisque nous avons tous reçu de sa plénitude. C'est pourquoi l'incarnation ne devait pas être retardée jusqu'à la fin du monde. Ce qui se produira alors, ce sera la consommation de la gloire à laquelle le Verbe incarné doit conduire la nature humaine. Donc Dieu s'est incarné au moment où il fallait, ni trop tôt, ni trop tard. Et là, vous avez une phrase splendide de saint Thomas. Le Christ est venu quand il a su qu'il devait nous secourir et que son bienfait serait bien accueilli. En effet, lorsque par une certaine longueur du genre humain, la connaissance de Dieu commençait à s'effacer, les mœurs à se dégrader, Dieu daigna élire Abraham pour rénover en lui la connaissance de Dieu et la conscience morale. Puis, comme le respect avait encore diminué, Dieu donna par Moïse le texte de la loi. Parce que les païens le méprisèrent et refusèrent de s'y soumettre, et parce que ceux qui l'avaient reçu ne l'observèrent pas, le Seigneur, mû par sa miséricorde, envoya son Fils pour que celui-ci, après avoir donné à tous la rémission de leurs péchés, puisse offrir à Dieu le Père les hommes justifiés. Mais si ce remède avait été retardé jusqu'à la fin du monde, la connaissance et le culte de Dieu comme l'honnêteté des mœurs auraient totalement disparu sur la terre. Vous voyez un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc ce retard n'est pas compatible avec la manifestation de la puissance divine qui sauve l'homme de multiples façons, non seulement par la foi au Christ à venir, mais encore par la foi au Christ présent et au Christ déjà venu. Donc Dieu est venu à la plénitude des temps lorsqu'il l'a voulu pour que son incarnation puisse donner le maximum de conséquences. Et la conclusion de la question 1, il y a deux avènements du Christ. Le premier pour qu'il remette les péchés, le second pour qu'il juge le monde. S'il n'avait pas fait cela, tous les hommes auraient été perdus ensemble, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il est évident donc que l'avènement de la miséricorde ne devait pas être retardé jusqu'à la fin du monde. Pourquoi? Parce que l'incarnation, c'est l'avènement de la miséricorde divine. Voilà mes bien chers frères, cet article, cette question numéro 1 donc de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, certainement une des plus belles questions de la somme. Donc, pour ceux qui le peuvent, je vous conseille beaucoup. Voyez d'abord ce qu'il y a dans le polycopier. Hein. Je vous rappelle que j'ai refait le polycopier en rajoutant les choses qui manquaient. Donc maintenant, il y a des changements au niveau des pages. Hein, mais regardez sur le polycopier, voir un petit peu tout ce qu'il y a, pour que vous puissiez justement travailler par vous-même. Minimum, c'est bien lire sur le polycopier. Tout ce qu'il y a dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, minimum. Et puis si vous pouvez aller directement au texte, je vais vous donner la page du polycopier, parce que ça j'ai oublié de vous la donner. Il faut que je retrouve ça sur mon ordinateur. Je vais essayer de vous retrouver ça. Parce qu'encore une fois, j'ai rajouté ce qui manquait. Et à cause de ces choses qui manquaient, les pages ont été changées complètement. J'essaie de retrouver sur le polycopier la page. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de trouver ça. Attendez, je m'excuse de perdre un peu de temps. J'aurais dû vérifier ça avant, mais je ne l'ai pas fait. Attendez, je vais y arriver. Voilà, je vais vous donner cette page. Enfin, voilà, donc dans le polycopier, La tertia pars, donc la première question, c'est à la page 133 dans la nouvelle pagination. Donc 133, vous avez les 5 arts, page 133 jusqu'à la page 137. Voilà, c'est ça, jusqu'à la page 137. Alors, vous avez les 6 premiers articles de la question numéro 1. Donc, étudiez un petit peu ça par vous-même parce que ces textes sont extrêmement, extrêmement importants. Même jusqu'à la page 138. Voilà, nous avons terminé par une prière. Je vous salue, du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Du Père et du Fils, Saint Amalaquin, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.